comme d'indite pièce. Sans doute faites-vous allusion à ce mouvement lancé à grand renfort de publicité qui, à nos yeux, n'a pas d'autre objectif que d'entraîner la classe ouvrière dans des aventures en s'appuyant sur le mouvement des étudiants.
Oh, je me trouve maintenant devant Renault et devant les pancartes, les 40 heures ou la mort de l'armure.
Le bambelon.
Ensuite, tous en grève, syndiqués, CGT, CFT, CFO, restons tous unis. Assez nous voulons vivre. Et d'ailleurs, les travailleurs sont assez braqués contre les journalistes, ce qui est normal par rapport.
Pas d'accord pour la télé et la radio.
Bon. D'accord.
Et même Luxembourg, ça soit Monte Carlo, Luxembourg et tout le monde. Non, il partira, va. Non, c'est pas la peine, on te l'a dit, il fait.
J'attends quand même le corps.
Et ils sont partis, tiens, ils sont partis. Il y a encore quelques... ils sont une dizaine seulement.
Il y en a 2000 qui arrivent de la Sorbonne.
Non, il y en a 2000 qui arrivent de la Sorbonne, les gars.
On en vient. C'est pas la peine de prendre là-haut.
Ils prennent dans le métro. Ils prennent le métro, Marcel s'en va.
Premier étage de la régie, les silhouettes des ouvriers de l'armure. Policière, le cortège des étudiants n'entrera pas dans l'usine Renault. Telles sont les consignes syndicales qui ont été données.
Monsieur Segui, quelles sont les consignes que la CGT donne actuellement à ses militants?
Elle a pris des décisions plutôt que de donner des consignes qui consistent à demander à tous ses militants dans toute la France et dans toutes les professions, en s'inspirant de ce qui se passe aux usines Renault, de consulter les travailleurs au cours de multiples réunions, des milliers de réunions se tiennent en ce moment, sur leurs revendications et les conditions dans lesquelles ils entendent entrer dans la lutte. Étant entendu qu'à cet égard, les militants de la CGT font des propositions concrètes, c'est-à-dire, nous entendons que le développement de l'action s'effectue d'une façon très démocratique, sur la base d'une large consultation des ouvriers.
Quelle est la position de la CGT à l'égard du mouvement étudiant ?
Nous avons affirmé notre solidarité pleine et entière dès le début du mouvement des étudiants et surtout après qu'ils aient été victimes de brutalité policière. Nous continuons à être solidaires des objectifs revendicatifs des étudiants et des enseignants en lutte. Mais nous ne cachons pas notre opposition à toute intervention visant à contester aux militants ouvriers la responsabilité de la direction des grèves des travailleurs. Nous n'entendons pas nous substituer aux militants des étudiants et des enseignants pour diriger leur lutte, mais nous entendons prendre nos responsabilités pour ce qui concerne les travailleurs.
Que pensez-vous justement de certaines initiatives qui ont été prises? Je pense par exemple à la marche sur Billancourt.
Elles sont de nature à compromettre justement cette solidarité à laquelle nous donnons tant entre les travailleurs et les étudiants. Ne souhaitons pas qu'elles se renouvellent.
Réponse d'Alain Gesmard.
Je pense que pour nous, cette journée est un des plus grands succès que nous ayons remporté depuis longtemps, parce que nous avons vu le passage de la solidarité quelque peu mystique entre la classe ouvrière, les étudiants et les universités concrètes.
Mais malgré tout, un point, à Billancourt, vous n'étiez pas très nombreux. Pourquoi ?
C'était parfaitement volontaire. Nous avions donné comme consigne de maintenir pendant ce temps l'occupation des facultés, d'une part, et d'autre part, nous avons voulu tenter très sérieusement, essayer de réaliser une véritable fraternisation, un débat, un dialogue, des discussions sur place entre ouvriers et étudiants. Et cela, nous n'aurions jamais pu le réussir si les gens y étaient allés en cortège très nombreux, ou même sans y aller en cortège, s'ils avaient été trop nombreux sur place. Il y aurait eu probablement des réactions de blocs qui se seraient regardées, quelques discussions timides. Mais là, le fait que les étudiants et les enseignants étaient finalement peu nombreux, quelques milliers, a permis cette fraternisation que je crois tous les observateurs ont noté sur place.
21 mai, grand amphithéâtre de la Sorbonne, Jean-Paul Sartre.
Bon, je sais pas.
S'il vous plaît. Avant de vous saluer et de répondre à vos questions, on me fait remarquer qu'il y a ici beaucoup trop de monde. Et on vous propose la solution suivante. Puisque je suis ici, je parle ici. Madame Duras parle à Richelieu. Claude Roy à Michelet. Axelos et Mascolo à Kiné. Par conséquent, vous pouvez vous préparer. Informel, et on m'avait dit que vous en aviez assez des cours ex cathedra. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi, avec une radio et puis vous tous? C'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit que je parlerai au milieu de vous et que je répondrai à vos questions. Mais non pas que je ferai un cours comme j'en ai fait au lycée autrefois. Vous êtes ici pour changer d'université. Eh bien, mettez-moi au milieu de vous. Et puis qu'il y en ait un certain nombre qui s'en aillent et que les autres me posent des questions, discutent avec moi. Nous sommes venus comme écrivains pour faire un dialogue avec les étudiants. Je crois que nous pouvons nous mettre à votre service. Et nous voulons le faire. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on devrait supprimer les notions de faculté et d'étudiant, en ce sens que les études devraient être ouvertes à tous. Je ne pense pas que, en effet, l'on doit parler de faculté aux ouvriers ou aux étudiants, mais des facultés à la jeunesse, c'est-à-dire à l'ensemble des travailleurs du pays. En particulier, il me paraît que, dès à présent, on peut revendiquer que les apprentis et les jeunes ouvriers aient au moins 2 jours par semaine où ils puissent venir fréquenter les facultés aux côtés de leurs camarades qui sont en ce moment étudiants. Je pense que la notion d'étudiant est une notion qui devrait être appelée à disparaître dans une autre société. De même, je considère que les cités universitaires ne devraient pas être des cités universitaires, mais des cités de la jeunesse. Pour la première fois depuis très longtemps, les étudiants et les intellectuels et les ouvriers d'autre part, que les circonstances en France et aussi certaines actions, certains intérêts ont séparé depuis près de 50 ans, se retrouvent. Et je pense que, dans la façon même dont ils se retrouvent, il y a quelque chose qui fait sauter les inégalités, qui peut arriver à les faire sauter. Je vais m'expliquer. En ce moment, chez vous, étudiants, M. Perpich, ministre de l'enseignement national, prétend qu'il y a 10% d'ouvriers. Il ment, évidemment, donc disons qu'il y en a 5 à 7%. 7%. Le reste sort des classes moyennes. Pour que vous, dans votre mouvement, vous, fils de bourgeois, vous ayez éprouvé le besoin d'aller vous allier tout de suite aux classes travailleuses, pour que vous ayez pensé que la seule façon de gagner votre lutte, c'était de vous allier à la plus grande partie des hommes qui souffrent de l'inégalité, il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux. C'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. C'est par cette raison que je trouve que l'inégalité, effectivement, le but de votre mouvement en liaison avec celui des travailleurs ne peut être que de la supprimer. Il est évident que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas simplement une union des opprimés, mais c'est que les fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie s'unissent aux ouvriers. Et ils s'unissent non pas pour des revendications minima, mais pour un programme révolutionnaire. C'est ça qui me paraît un des faits les plus importants de cette grande révolte d'aujourd'hui. Je vous demande de ne pas applaudir parce que comme ça, ça ne donnera à personne l'envie de me siffler. Je pense que ce que l'on est dans Von Bendit, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le fait que il n'est pas certes, il refuse de le dire, il refuserait le nom, il n'est certes pas, il n'est pas parti de l'aile marchande, mais comme il dit, il est minorité, il fait partie d'une minorité agissante. Autrement dit, suivez un certain nombre de ses suggestions, vous les faites vôtres, et il maintient ce mouvement sur le vrai plan de contestation où il doit rester, au lieu de le faire rentrer dans des ornières de parti ou dans des ornières de revendications qui sont immédiatement reprises par le pouvoir. Le pouvoir, ce ne serait que trop content que vous réclamiez certaines choses très précises et celles-là seulement. Précisément, le mouvement de révolte, d'insurrection, reste dans son aspect critique et négatif grâce à des hommes tels que Cohn-Bendit. Et tous les pouvoirs établis, qu'ils soient à droite ou à gauche, car il y a des pouvoirs à gauche comme à droite, ne peuvent pas supporter cette contestation des pouvoirs. Je répète la question pour tout le monde. Comment analyser les résistances de la CGT aux étudiants qui cherchent à rejoindre les travailleurs et comment peut-on les surmonter? Comment on peut les analyser? C'est encore à la rigueur que je peux le savoir. Comment on peut les surmonter? Ce n'est pas moi qui vous le dirai. Oui. Bah, il est très évident que le mouvement de grève actuelle a eu pour origine l'insurrection des étudiants. Il n'est pas douteux que les mouvements de grève sont passés par la brèche faite dans la le système par la révolte étudiante. Et il n'est pas douteux non plus que ces mouvements de grève ont eu à l'origine des jeunes ouvriers comme promoteurs. Il semble bien qu'au fond, il y a eu un facteur décisif, c'est la grande manifestation du lundi où 800 000 personnes, travailleurs et étudiants, ont été ensemble, où un premier contact a été établi et où, en somme, les jeunes ouvriers se sont dit « Pourquoi pas nous ?» Mais à partir de ce moment, on peut dire que ces grèves, je ne dirais pas qu'elles ont débordé la CGT, qui est trop bien installée, mais en tout cas, elle a mis la CGT sur une position de suivisme. Il a fallu, pour reprendre ces grévistes, les accompagner dans leur mouvement, coiffer le mouvement, et finalement, éviter surtout cette démocratie sauvage que vous avez créée, vous, et qui aurait pu s'établir si les jeunes ouvriers avaient fait la même chose que vous. Démocratie à laquelle vous devez tenir, démocratie qui dérange toujours les institutions. Or, la CGT est une institution. Dans ces conditions, vous comprenez évidemment la réaction de la CGT, elle est claire. Il y a, semble-t-il, deux espoirs. L'un, c'est que quand même, les contacts avec les jeunes ouvriers, si vous n'y renoncez pas, fassent comprendre enfin à tous les travailleurs qu'il n'est pas question pour vous de diriger ce mouvement des travailleurs que vous n'avez jamais songé à le faire, vous voulez vous y joindre, que vous voulez défendre vos intérêts et les leurs, mais en vous mettant à votre service, que vous souhaitez les voir ici pour parler avec eux, mais qu'il n'est pas question pour vous de diriger. Il faut qu'ils comprennent que vous n'êtes pas contagieux. Ça, c'est de l'autre côté alors. C'est du côté de la CGT. Si la CGT peut arriver à comprendre qu'il est de son intérêt de vous laisser un contact avec les jeunes. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est cette liaison d'une totale démocratie que vous cherchez, avec, et qui est une démocratie qui, au fond, a des origines dans la démocratie bourgeoise, dans la mesure où vous êtes à 90% des fils de bourgeois. Mais, en même temps, cette liaison de ça avec le divorce complet avec la classe bourgeoise et la recherche de l'égalité avec les travailleurs, ce sont ces deux choses que je trouve essentielles dans votre cas. C'est-à-dire, donc, démocratie et socialisme. Non, madame, écoutez, une question à la fois, s'il vous plaît. Alors, je vous réponds à celle-là. Je vous réponds au nom de Cohn-Bendit, quoi qu'il ne m'ait pas chargé de répondre en son nom, il me semble que c'est vrai, mais il n'a jamais dit que les conditions du mouvement de contestation étaient les mêmes chez les ouvriers et chez les étudiants. Il y a des méthodes. Ce qu'il veut, c'est... Un système entier est à rejeter. Il est à rejeter parce que, aussi bien le jeune ouvrier qui arrive devant sa machine semi-automatique avec 15 jours d'apprentissage et puis qui voit là son destin, que le jeune étudiant qui arrive dans un cours avec un professeur qui lui apprend aussi dans quel système il va entrer, il lui apprend son destin de cadre. Aussi bien l'un que l'autre ont tout intérêt à sortir des formes que leur régime leur impose. Car il y a une contestation qui est l'opposition de Sa Majesté dans le régime. Par conséquent, vous voyez, Voilà ce qu'il y a de commun pour Cohn-Bendit. Mais quant aux formes de lutte, il est bien évident qu'il ne va pas, lui, enseigner aux ouvriers les formes de lutte qu'il faut prendre. Il se borne à constater l'unité des buts, du jeune ouvrier qui refuse cette société où il est obligé d'entrer et du jeune étudiant qui la refuse aussi.
Pensez-vous qu'on puisse rejeter une forme de culture, peut-être parce qu'elle est bourgeoise, par exemple?
Vous voulez parler de ça?
Oui.
Hein? Ça. Ça, moi, je suis d'accord pour qu'on leur jette, mais ça n'est pas spécialement parce que c'est ou ce n'est pas bourgeois. Mais enfin, si vous voulez dire que une révolution, même culturelle, a à se poser le problème de sa tradition, ça, c'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est à vous de le savoir. Autrement dit, je pensais ceci. Une révolution culturelle suppose précisément, tel que vous l'entendez, une rupture avec cette société dans laquelle on ne vous a pas encore mis et qui a ses formes d'art, et à l'intérieur de laquelle se trouve exploité et vendu aussi et débité par les professeurs les formes d'art antérieures. Donc, d'une certaine manière, il y a rupture de tradition, puisque vous ne voulez pas entrer dans cette société. Et cette société-là, elle a des traditions, et ces traditions ne sont autres que les formes d'art des périodes antérieures. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez...
Ce film est pour le mouvement et doit être diffusé dans les usines. Jean-Paul est tout à fait d'accord maintenant qu'on l'a prévenu. Ce film est pour le mouvement,
c'est pour le mouvement.
Diffusé dans les usines.
Alors,
Jean-Paul est d'accord.
C'est moi qui le reçois dans les yeux, alors n'ayez pas peur. Bon, alors je vous disais, donc il y a d'une certaine manière rupture de tradition, et d'un autre côté, il est absolument impossible que cette rupture de tradition, d'un autre côté, nie complètement ces siècles d'art ou ces formes d'art qui ont précédé. Donc vous êtes obligé de penser à la fois à les nier en tant qu'on vous les donne dans la société technocratique, bourgeoise, dont l'enseignement vous est à la fois à les récupérer d'une autre manière. Autrement dit, vous avez à réinventer votre tradition. Mais il n'est pas possible qu'une révolution culturelle soit une révolution qui ne soit pas une révolution avec une tradition, mais avec une tradition qu'elle doit se donner elle-même. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, prendre non pas les œuvres d'art en tant qu'elles sont déjà mortes quand on nous les donne, mais au contraire en tant qu'elles ont été chacune, à un certain moment, une petite révolution, une petite contestation des formes d'avant. Autrement dit, voir dans la succession des formes de culture plutôt le côté par lequel elles ont détruit quelque chose et créé quelque chose, sorte de dialectique du neuf, au lieu de recevoir par des cours en chair la culture débitée en tranches, tuée depuis longtemps et servant uniquement à faire des cadres.
Une question, je lis une question écrite parmi les très nombreuses qui viennent d'arriver. Camarade Sartre, que pensez-vous des thèses de Marcuse?
Et je pense que... écoutez bien, les thèses de Marcuse, on ne va pas discuter de ça tout en général, parce que ça c'est de la philosophie. Il y a des philosophes ici qui ont fait la philosophie en philosophie, mais il y en a d'autres qui ne sont pas en philosophie. Mais il y a une thèse que, ou vous connaissez par la lecture de Marcuse elle-même, ou vous avez trouvé vous-même, et qui n'est pas une thèse philosophique, qui est une thèse qui aide notre conception politique, c'est l'idée selon laquelle la société moderne est située de telle manière, avec de telles forces de récupération, avec de tels moyens de rattraper, de changer à son profit ce qui pourrait être à son désavantage, que finalement, toute forme d'opposition à cette société, si elle se trouve à l'intérieur de cette société, tourne finalement à son profit. La société technocratique d'aujourd'hui est une société qui récupère même les opposants, même les gens qui sont tout à fait contre elle, elle récupère même le mal qu'elle fait. C'est-à-dire que, comme il dit très bien, elle a changé ce que Hegel appelait la mauvaise conscience, c'est-à-dire le fait que les gens étaient un peu tourmentés par ce qu'ils faisaient, en bonne conscience. C'est-à-dire que l'homme de la société moderne est un homme qui, sur un océan d'angoisse d'ailleurs, a une petite crête de bonne conscience grâce à laquelle il peut vivre. Cette société, donc, est faite de telle sorte que tout est récupéré. Et Marcuse dit que les seuls par lesquels on peut vraiment espérer qu'il y ait contestation de cette société, ce sont des éléments marginaux, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas encore entrés dedans, ou qui ne peuvent pas y entrer. En particulier, il cite, en terminant son dernier livre, cette phrase, « Notre espoir ne peut venir que des sans-espoirs ». Je veux dire qu'un des sens de l'insurrection des étudiants, c'est que vous ne voulez pas entrer dans cette société-là. Et vous ne voulez pas y entrer parce que vous pensez que si vous y êtes, vous êtes fait. C'est comme des rats. Après ça, vous suivez l'échelon, vous devenez cadre, précisément. Et je vous dis qu'y a-t-il de plus opprimé qu'un cadre, bah, et c'est ce que vous avez refusé. Vous l'avez refusé d'un point de vue qui, au fond, trouve, si vous voulez, sa théorie dans le livre de Marcuse, « L'homme unidimensionnel » qui vient de paraître. Je m'en vais vous quitter maintenant parce que je commence à être un peu fatigué. Si je continue à vous répondre, vous répondrez des bêtises. Je dis, je vais vous quitter parce que si je continue, comme je suis fatigué, je finirai par ne plus vous dire que des bêtises. Alors il vaut mieux que je m'en aille. Mais je voudrais...
S'il te plaît.
Mais je voudrais insister en m'en allant sur la nouveauté du débat que vous avez institué et qui va se poursuivre entre écrivains et étudiants. Celui-ci, et il y en a eu d'autres, n'est que le premier, il y en aura tant que vous en voudrez. Au revoir.